Antoine Moquet, vous êtes professeur de géophysique planétaire à l'Université de Nantes. Vous êtes responsable du groupe de géophysique au sein du laboratoire de planétologie et de géodynamique de cette université. Vous avez fait une thèse en sismologie à Rennes et vous avez travaillé à l'Institut de physique du globe à Paris en 1988. Vous avez passé 2 ans à l'Université de Nagoya au Japon. Ensuite, vous avez été maître de conférence à l'Université de Paris 11 à Orsay. Et enfin, depuis 1993, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Vous travaillez sur la géophysique des planètes et notamment des choses qui ne sont pas habituelles, les mécanismes de rupture des roches liés aux tremblements de terre. Et surtout, ce qui nous intéresse, vous êtes actuellement co-investigateur de la mission Netlander 2005 pour la partie sismologie et le choix des sites d'implantation à la surface de Mars. Alors effectivement, Mars est en pleine actualité et je voudrais vous demander déjà pourquoi est-ce qu'en France et peut-être dans d'autres pays d'Europe, est-ce qu'on étudie la planète Mars? Quelles sont les priorités actuelles dans la recherche spatiale et la recherche astronomique?
Alors pourquoi étudier la planète Mars? Eh bien parce que c'est pratiquement la dernière planète tellurique au sens strict, avant les grandes planètes géantes, les planètes gazeuses. Et on pense qu'il doit y avoir une évolution de la chimie des planètes au fur et à mesure où on s'éloigne du Soleil. Donc étudier la planète Mars, c'est également étudier la Terre et faire une comparaison entre la composition chimique de la Terre, que l'on connaît assez bien, et la nouvelle composition chimique que l'on pourrait obtenir pour la planète Mars.
Alors effectivement, on a souligné suffisamment que vous étiez en quelque sorte géologue à la base, et c'est assez, ça peut paraître curieux, mais bien sûr ça ne nous étonne plus que les géologues s'intéressent aux planètes, puisque c'est à travers cette science que l'on peut entrer dans justement la structure des planètes et comprendre la Terre. Et vous venez de dire que comprendre la Terre, ça passe aussi par la compréhension des autres planètes qui lui ressemblent, c'est-à-dire les planètes telluriques. Alors qu'est-ce qu'on sait actuellement de la structure de Mars sur ce point de vue, au point de vue géologique? La surface et peut-être l'intérieur?
Alors en ce qui concerne la surface, on soupçonne, même si c'est actuellement un petit peu remis en question, qu'il n'y a pas eu de phénomène tel que la tectonique des plaques qu'on connaît sur Terre, donc on aurait eu une planète monoplaque, ou alors s'il y a eu un début de tectonique des plaques, ça a été très très tôt dans l'histoire de la planète, mais ça s'est arrêté assez vite. Pour ce qui est de l'intérieur de la planète, du fait de sa répartition de masse qui peut se mesurer avec la mesure de la rotation de la planète, du fait de sa masse et de son rayon, on est pratiquement certain qu'il y a un manteau silicaté qui entoure un noyau métallique. Maintenant, c'est certain que l'on ne connaît pas actuellement le rayon de ce noyau. On a une incertitude d'environ 200 km, alors que ça fait déjà plus de 100 ans que l'on connaît le rayon du noyau terrestre. Donc il y a encore beaucoup de choses à savoir. Il faut savoir que, par exemple, le noyau terrestre, on connaît sa dimension depuis 1906. Et tout à l'heure, si on parle de la mission Netlander, ben, on espère avoir des résultats en 2006 sur le rayon du noyau de Mars. Donc ça serait 100 ans plus tard, ça serait assez joli.
Vous sembliez dire aussi qu'on connaissait déjà pas mal de choses sur la surface de Mars, notamment depuis qu'on s'intéresse aussi éventuellement aux traces de vie, donc le sol martien, la configuration de ce sol nous intéresse, mais qu'on connaît peut-être beaucoup moins de choses qu'à l'intérieur, de l'intérieur de Mars. Est-ce que c'est vrai ça?
Oui, tout à fait. En fait, pour ce qui est de la surface et de la présence de l'eau, il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a pas seulement un cycle de l'eau extérieure à la planète, mais il y a aussi un cycle de l'eau intérieure. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai parlé de la tectonique des plaques, puisque à l'intérieur de la Terre, on a une descente de l'eau, une remontée grâce au volcanisme, la descente se faisant dans ce qu'on appelle les zones de subduction. Et s'il n'y a pas eu de tectonique des plaques sur Mars, on n'a sans doute pas eu ce recyclage. Donc, est-ce qu'il reste encore de l'eau dans le manteau martien? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre encore. La seule chose que l'on sache, c'est qu'il y a sans doute de l'eau dans le sol, dans le pergélisol, et il y a eu de l'eau à une époque très reculée, à la surface de Mars, puisque maintenant on voit des très belles photos où il y a les anciens chenaux, des rivières et des fleuves. Mais cette eau a maintenant disparu. Le seul endroit où il en reste, c'est dans les calottes polaires, mais c'est l'unique endroit où on peut en trouver à la surface. Et connaître l'intérieur d'une planète, ça doit être, à mon avis, aussi important que de regarder l'extérieur, puisque ce n'est pas uniquement en regardant la surface d'une planète qu'on peut la connaître dans son entier.
C'est là l'objet peut-être de la mission Netlander qui va justement essayer de mieux connaître cet intérieur. Alors avec quels moyens, qu'est-ce que l'on va faire avec cette mission et qu'est-ce que l'on en espère ?
Alors la mission Netlander, c'est justement une mission qui vient en appui, qui fait partie intégrante du programme d'exploration de Mars, au même titre que les missions qui sont axées sur la recherche de la vie ou sur le retour d'échantillons martiens. Donc la mission Netlander, elle s'occupe de l'intérieur de la Terre. Donc pour étudier l'intérieur, ce sont les moyens géophysiques qui ont fait leurs preuves sur Terre qui sont employés. Et on emploie ce qu'on appelle une science de réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul instrument ou un groupe d'instruments à un seul endroit. Ce que l'on désire, c'est mettre des instruments en quatre endroits différents de la planète. Et cet ensemble d'instruments, il y a des mesures du champ magnétique, donc des magnétomètres, des mesures du champ électrique, des mesures de la température et de la pression de l'atmosphère, des mesures de sismologie pour étudier les tremblements de Mars ou des séismes martiens, et des mesures radar pour étudier la structure du pergélisol martien. En ce qui concerne la conférence, j'ai été très agréablement impressionné, puisque déjà j'ai parlé devant un auditorium qui était plein à craquer. Donc c'est toujours agréable de parler devant une salle pleine. Ensuite, c'est vrai que lorsque l'on fait une conférence, on essaye de capter un peu les réactions du public au fur et à mesure où l'on parle, et j'ai pas eu l'impression que les gens s'étaient ennuyés, donc c'est déjà assez valorisant en ce qui me concerne. Pour ce qui est des questions, j'ai surtout été impressionné par la qualité scientifique des questions, puisqu'il y en a notamment une qui m'a été posée sur la manière de mesurer la densité des roches en profondeur à partir des mesures satellitaires. Avec un exemple, la personne qui a posé la question a pris comme exemple l'étude des Mascons sur la Lune. Et c'était une question très technique, donc le niveau des questions était assez élevé, et c'est toujours très agréable pour un conférencier d'avoir à se frotter à des questions qui ne sont pas évidentes.
Alors il me reste à vous remercier non seulement de cette interview, mais aussi de cette conférence qui était, je le rappelle, magnifique, qui a eu lieu le mardi 18 janvier dernier au Muséum d'Histoire Naturelle, et nous souhaitons vous revoir pour une autre conférence lors d'une autre saison peut-être. Merci Antoine Moquet, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.